bonjour à tous, heureux d'être avec vous pour continuer ce matin ou commencer une nouvelle série de prédications. J'espère en tout cas que si vous avez eu des vacances, elles étaient bonnes. Et puis ceux qui n'en ont pas eu, eh ben, faut attendre, hein, ça viendra. Ça viendra, ça vient toujours. Donc oui, ce matin, j'aimerais commencer une nouvelle série de prédications intitulée « Saisir des victoires ». Haha, c'est cool, hein? Ouais, je sens qu'il y a du punch, là. Saisir des victoires, yes! Bon. Moi, je suis très motivé par cette thématique, parce que je crois que nous avons besoin, c'est une nécessité, nous avons besoin de victoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'on a besoin de victoires? Bon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'un club sportif, mais même si tu es super fair play, même si tu joues pour le plaisir, même si ton équipe, c'est une équipe de potes, ben, à un moment donné, tu as quand même envie de gagner. On a quand même besoin de victoire. Regardez comme c'est beau, hein ? Une victoire, là, ça fait plaisir. Une victoire, ça encourage. Une victoire, ça donne de la joie. Regardez leur tête, là, ils sont tellement contents, il y a de la joie. Une victoire, ça nous rend aussi plus forts. Une victoire, ça nous donne envie de persévérer, ça nous donne envie de continuer. Puis si on parle du sport, eh ben, on se dit, ben, on continue à s'entraîner, on continue à s'améliorer, parce qu'on voit un fruit à cela. Parfois, on a l'impression que gagner est un peu négatif. Hein, ceux qui aiment gagner, c'est pas super. Moi, les gens sont toujours étonnés qu'en fait, j'aime bien gagner. Hein, ils disent, oh, le pasteur, il s'en fout un peu, la compétition. Non, pas du tout, détrompez-vous. Venez au karting à Vitebœuf avec moi, puis vous verrez que je suis plutôt compète. Hein. Le problème, c'est pas d'aimer gagner, hein, mais c'est de ne pas accepter la défaite. Ça, c'est le problème. C'est les mauvais perdants, comme on dit. Ça c'est difficile. Hein. Si vous jouez des jeux de société et qu'il y a un mauvais perdant, voilà. Là, mon cœur pastoral, là, il parle. Là, j'ai de la peine à gagner quand je sens que quelqu'un a de la peine à perdre. Hein. Ça, c'est un peu dur. J'aurais presque envie de le laisser gagner pour lui faire plaisir. Mais bon, en même temps, il faut apprendre. Il faut apprendre à perdre aussi. Alors voilà. Mais je crois qu'au fond, on aime tous gagner, on aime tous remporter des victoires. Et dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Christ, ben je crois que c'est pareil. Nous avons aussi besoin de victoires. Nous avons soif, nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre. En nous, et puis autour de nous. La pire des choses, ce serait que nous nous habituions à perdre. Qu'on soit toujours dans la défaite, puis que ça paraisse normal. Ça serait la pire des choses. Alors, je commence avec une question, d'habitude je finis avec des questions, je finirai aussi avec des questions. As-tu remporté une victoire cette semaine? En fait, c'est un peu ce que le Saint-Esprit m'a posé comme question. C'est une bonne question quand même. En fait, on avance, on vit un peu notre vie, puis est-ce que je suis dans une position, est-ce que je suis dans une saison de ma vie où j'ai des victoires ou bien je suis toujours dans la défaite? Ou bien est-ce que je suis dans un no man's land, où finalement, je ne sais pas trop. Bon, une victoire sur quoi? Vous allez peut-être me dire. Une victoire sur quoi? Ça aussi, c'est une bonne question. Pour y répondre, je vais encore vous poser d'autres questions. Qu'est-ce qui bataille à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui bataille à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui habite vos pensées? Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours? Est-ce qu'en pensant à cela, il n'y a pas des victoires à remporter? Alors dans cette série, on va parler de plusieurs choses. On va parler de la dépression, on va parler de l'orgueil, on va parler de la culpabilité, de l'insatisfaction, on va parler de la colère. Et puis je vous invite avec moi à saisir des victoires. Je le dis souvent, je l'ai déjà dit, hein, la coupe, elle est remportée, la saison, on sait qui la gagne, mais on doit quand même jouer les matchs. On sait que Dieu a remporté le prix final. Mais nous, on a des combats. Nous, on a des victoires à aller chercher. Et j'aime beaucoup ce verset qu'on retrouve dans le psaume 60, verset 14, et aussi dans le psaume 108, verset 14. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Et puis, c'est assez clair, c'est lui qui écrasera nos adversaires. C'est fort, hein. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Donc, loin de moi l'idée de vous donner une série de messages où je dis « on va, nous tout seuls, remporter des victoires, mais on va le faire avec Christ ». Et c'est là tout l'enjeu, en fait, de ce premier message d'aujourd'hui. Saisir des victoires fait partie de notre chemin avec Dieu. Mais on doit comprendre qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Donc j'aime ce titre « saisir ». Il faut saisir des victoires. La victoire ne nous tombe pas dessus, il faut aller la chercher, il faut la saisir. Alors je crois que lorsque nous remportons une victoire, nous allons vivre les promesses de Dieu. Chaque victoire, c'est comme si on entre, on découvre, on vit une promesse que Dieu a pour nous. C'est une victoire, c'est le signe qu'on avance quand il y a des victoires. On va de victoire en victoire. C'est un peu comme arriver au bout d'un percement d'un tunnel. Alors, je ne pense pas que vous ayez percé beaucoup de tunnels. Peut-être une fois, vous avez fait des tunnels sur la plage pour vos enfants, je ne sais pas. Nous, on avait fait ça, c'était pas mal. On faisait des tunnels dans le sable, on ressortait d'un autre côté. Il faut creuser pas mal, mais c'est sympa. Mais j'imagine un peu à l'époque. Maintenant, on a des grands tunneliers, là, ça va presque tout seul. On imagine. Bon, on fait quand même la fête quand il y a des grands tunnels qui sont percés. Mais imaginez à l'époque, quand ils perçaient un tunnel, le temps que ça prenait, l'énergie qu'ils mettaient, puis d'un coup, ils ouvraient une nouvelle route. C'est pas qu'il y avait 150 autres choix pour relier le Tessin. Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Il fallait monter. C'était des chemins très pénibles. Et puis là, donc le tunnel, c'était pas un luxe. C'était une nécessité souvent pour rejoindre une vallée qui n'avait aucune communication. Et puis quand ils ouvraient la voie, quand ils arrivaient à l'autre bout de la... Après avoir creusé et tout, mais quel chemin ouvert, quelle victoire, quelle joie il devait y avoir d'arriver de l'autre côté. Vous arrivez un peu à imaginer ça? C'est extraordinaire. Mais c'est ça un peu la victoire. Dans notre chemin, il y a des montagnes, puis on va devoir creuser ces montagnes, on va devoir passer le tunnel, puis d'un coup on arrive de l'autre côté, puis waouh, génial, on avance, on va plus loin, on a franchi une barrière, on a franchi une montagne. Il y en aura d'autres, certes, il y en aura d'autres, mais c'est une victoire. Et puis ça nous fait du bien. On avance. L'Ancien Testament nous rapporte l'histoire du peuple d'Israël qui a énormément combattu. J'avais un cours de religion, et puis on nous faisait remarquer quand même que la Bible était assez violente, quoi. Puis c'est vrai, bon, moi, j'ai grandi avec la parole de Dieu, puis... Mais c'est vrai que si on regarde les textes, c'est quand même assez violent. Il y en a des combats. Il y en a. Alors nos combats sont différents, mais ils sont là. Et Dieu désire nous donner la victoire, comme il l'a toujours fait à son peuple, comme il l'a toujours donné à son peuple, alors qu'il le recherchait, alors qu'il le consultait. Cette semaine, j'étais aussi surpris en relisant les chroniques de voir le nombre de vaillants héros, de vaillants hommes, de vaillants guerriers qui entouraient David au moment où il devait devenir roi. Je ne sais pas si ces passages vous disent quelque chose, mais c'est assez extraordinaire. Il y a vraiment une grande liste précise des personnes qui ont rejoint David. Il y a des précisions du genre, en Chronique 12:2, c'était des archers et ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leur arc. Donc c'est les gars... Ils sont rapides, quoi. Droite, gauche, ça y va. D'accord ? Donc, des précisions comme ça. Un petit peu plus loin, verset 15. « À lui seul, le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. » Donc, c'était un peu par tribu. Il y avait des hommes qui se joignaient à David. Et puis, ils avaient des spécificités. C'était des guerriers extraordinaires. Dieu avait pourtant choisi David. Il l'avait oint, mais la victoire devait être remporté. Il fallait qu'il s'entoure de vaillants guerriers. Alors, en introduction à cette série, j'aimerais vraiment vous redire que nous sommes un peuple victorieux au travers de Jésus-Christ. Amen. Vraiment. on est vraiment victorieux. C'est pour de vrai. Alors regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Ok ? En priant pour ce message, j'avais encore l'image d'une personne menottée qui s'agenouillait devant la croix comme ça avec ses menottes. Puis qui demandait des choses à Dieu, mais qui était menottée. Mais Christ, c'est Christ qui a été lié pour toi. Il a remporté la victoire à la croix. Hein, puis nous, on est des fois encore menottés. Alors c'est vrai qu'il y a parfois un délai pour que la victoire de Christ soit effective dans tous les domaines de notre vie. C'est fait, c'est remporté, mais pour que ce soit effectif dans nos vies, il y a un peu un délai. Généralement, ce délai ne dépend pas de lui, mais de nous. Et pour remporter une victoire, c'est très important pour la suite de cette série, on doit comprendre qu'il y a un combat, déjà. On doit désirer s'y atteler. Ok, il y a un combat, je vais y aller. Je vais combattre. Je ne vais pas esquiver le combat. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas faire comme s'il n'y avait pas de combat. Il y en a un. Je vais m'y atteler. Et puis, troisième chose, je dois croire en la victoire de Jésus. Je dois croire en sa victoire. Croire qu'il est possible de remporter la victoire avec Jésus. Donc ce matin, c'est vraiment ça que j'aimerais apporter pour introduire cette série, la victoire sur notre sentiment d'impuissance. Parce que si on ne croit pas que nous sommes victorieux en Christ, alors cette série, elle ne sert à rien. Si on n'y croit pas, si on ne croit pas que c'est possible, ça sert à quoi que je vous parle de la victoire sur la dépression, la culpabilité, l'orgueil, la colère ? Ça ne sert à rien. Donc j'aimerais ce matin comme susciter un peu votre foi, et puis vous remettre dans la parole de Dieu, puis dire, mais purée, oui, on est un peuple victorieux en Christ. C'est vrai. C'est vrai. Et je vous donne juste une citation d'un missionnaire américain, missionnaire méthodiste qui est décédé, qui a dit ceci, j'ai trouvé ça très beau. « J'ai jeté aux pieds de Christ une partie de moi-même dont j'étais honteux, sur laquelle je n'avais aucune maîtrise et avec laquelle je ne pouvais plus vivre. Et à ma grande surprise, il a pris cette partie de moi, l'a refaite, l'a consacrée à l'œuvre de son royaume et me l'a redonnée. Je peux maintenant vivre heureux, joyeux et à l'aise avec moi-même. » Waouh, un témoignage de vie, une victoire. Lorsqu'on donne à Jésus, lorsqu'on croit que c'est lui qui a la victoire, eh ben, il fait quelque chose avec ce qu'on lui donne, même si c'est moche, même si on a honte, même si... Justement, nous, on est impuissants face à ça, mais on n'est pas impuissants en Christ. Alors, il nous le redonne, transformé. Saisir des victoires avec Christ, c'est vraiment possible. Le sentiment d'impuissance, il nous dit, ça ne peut pas changer. C'est comme ça, ça ne peut pas changer. Ça ne sert à rien d'essayer. Ça ne sert même à rien d'essayer. On ne peut rien faire. Ça, c'est le sentiment d'impuissance. Et puis ce sentiment-là, il se construit avec nous. Il se construit en nous, avec le temps. Alors que nous faisons face à des échecs, peut-être des échecs répétés, des difficultés récurrentes dans des domaines tels que les relations, la moralité, les pensées, ou bien que nous vivons une maladie chronique, un handicap physique. À un moment donné, cette pensée que ce n'est pas possible, que rien ne peut changer, on ne peut rien faire, s'inscrit en nous. Mais on peut définir ce sentiment d'impuissance comme une déformation de la vérité. Le sentiment d'impuissance, c'est une déformation de la vérité. En fait, c'est un sentiment construit, appris, c'est un conditionnement. On a tous généralement essayé de s'en sortir. On a essayé peut-être des traitements. Et puis à un moment donné, faute de résultats, on a gardé ce constat en nous, ce constat d'impuissance. Je ne peux rien faire. C'est l'histoire du fameux éléphant de cirque. Hein, vous connaissez l'éléphant de cirque qui reste tranquillement attaché à son piquet. Vous avez, bon, maintenant, il n'y a plus le droit d'avoir des animaux, mais tôt plus, hein. Bon, à un moment donné, le CNI, il y avait des éléphants. Ils faisaient leur bain à Ouchy, c'était très joli. Même à Yverdon, d'ailleurs. Et puis, pour qu'un éléphant, qui est gros, qui est lourd, puisse rester tranquillement attaché à son petit pieu comme ça, eh ben, en fait, il était attaché à ce pieu depuis petit. Et puis, à force, hein, quand il est petit, il essaye de se décrocher, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se détacher. Et puis, il a essayé, il a tellement essayé de fois, qu'à un moment donné, il dit, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. Et puis, à l'âge adulte, ben, l'éléphant, il n'essaye même plus. Il sait que, de toute façon, il ne va pas y arriver. C'est un cri, inscrit en lui. OK ? Alors que, bien sûr, il aurait la force de tirer sur le petit pieu. Donc, son sentiment d'impuissance, en fait, c'est une déformation de la vérité. Il croit qu'il n'est pas capable, impuissant face à cette situation. C'est ce qu'il a appris. Mais en fait, c'est faux. Ça va, vous êtes d'accord ? OK. Il y a eu d'autres expériences qui sont faites avec des animaux assez rigolotes. Dans un aquarium, ils ont séparé, ils ont mis une vitre, ils ont mis des poissons, puis ils ont mis de la nourriture de l'autre côté, puis le poisson, à force de se cogner dans la vitre, eh ben, il a arrêté, ils ont enlevé le verre, puis le poisson, il restait que du même côté, il ne traversait plus. Hein, voilà. Donc, c'est comme si pour lui, c'était plus possible. D'accord ? Donc, OK, on n'est pas des éléphants, mais on peut tirer quelques similitudes avec nos vies. En fait, sans Christ, on est un petit peu comme cet éléphanteau qui se débat tout seul dans le tourbillon de la vie. On essaye de tirer sur nos chaînes, puis on n'arrive rien à faire. Puis, arrivé à l'âge adulte, on a été forgé avec ce sentiment d'impuissance dans bien des domaines ou des situations. Puis on a entendu des paroles, hein, « Tu ne changeras jamais ». Ah, c'est des paroles fortes, vous allez surprendre. Ha, tu ne changeras jamais. Hein, puis ça, tu changeras jamais. Ben, faut croire que non. Alors, je changerai jamais. Arrête de rêver, tu n'y arriveras pas. Faut être réaliste un peu. Faut être réaliste quand même dans la vie. L'avenir. Quel avenir ? Il n'y a pas d'avenir. Puis si tu as mal maintenant, ça c'est le genre de douleur qui va te rester mais toute ta vie. Si t'as mal maintenant, ça c'est foutu. T'en as pour toute ta vie. Et de toute manière, on ne peut rien faire. Vous voyez ce genre de pensée qu'on entend ? Puis que finalement, on grandit avec ça. Puis on essaie de se débrouiller, mais il n'y a rien qui change. Donc ça se construit en nous. Mais c'est une déformation de la vérité, parce qu'avec Christ, tout devient possible. Avec Christ, tout devient possible. Est-ce que vous y croyez ? Avec Christ, tout devient possible. Yes, un amen sur ma droite. Bon. Dans l'histoire d'Israël, on retrouve beaucoup d'exemples qui illustrent ce même état. C'est des récits que la plupart d'entre vous connaissez très bien, donc je ne vais pas m'étendre, mais je pense à la libération d'Égypte, du peuple d'Israël, la conquête de Canaan, David et Goliath, des classiques. Hein. Mais même lorsque l'Éternel était très clair, le peuple n'arrivait pas à croire à ce qu'il voulait faire. Alors je vous donne quand même un exemple en Exode 6. Il est dit ceci. L'Éternel dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, donc il parle à Moïse, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Waouh, amen, alléluia. Quelle promesse magnifique. C'est merveilleux, non ? Plus clair que ça, c'est quand même difficile. Est-ce qu'on peut ne pas faire confiance à une parole comme ça qui vient de l'Éternel ? Franchement, s'il dit ça, il va l'accomplir. Vous êtes d'accord ? Pourtant, Regardez le verset suivant, le verset 9. Qu'est-ce que répond le peuple ? Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. En fait, ils avaient tellement souffert, ils étaient même tellement habitués à vivre ce qu'ils vivaient à ce moment-là, qu'ils étaient incapables de croire les promesses de Dieu. Ils étaient résignés, conditionnés à être des esclaves pour toujours. Ce n'est pas possible, on ne peut pas sortir de là. Personne ne peut nous délivrer de l'Égypte. Puis finalement, on nous donne à manger quand même. Conquérir le pays promis, c'était la même chose. Oh, mais il y a des géants. Oh, mais nous, on n'est pas assez nombreux, mais on n'est pas assez forts, mais etc., etc. Tout ça, d'un point de vue humain, était vrai. Mais c'était sans compter sur Dieu. Goliath, il était invincible. Les Israélites étaient bien trop petits. Puis David a vu les choses autrement. Il va dire à Goliath, en 1 Samuel 17, 45, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'est ça la différence. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais s'il regardait à lui, lui en plus, on sait qu'il n'était pas très grand, quoi. Voilà ce qui fait la différence dans le combat. On n'y va pas avec nos propres forces, avec notre propre nom. On ne peut pas battre Goliath, mais l'Éternel le peut. C'est ça qui met fin à notre sentiment d'impuissance. Alors les spécialistes de la pensée positive vont dire il suffit de dire qu'on va y arriver et tout devient possible. On n'est pas toujours adepte à la pensée positive, puis j'aimerais pas vous donner de la pensée positive ce matin, mais ça reste quand même vrai que notre pensée a une grande influence sur nos vies. Ça, vous devrez tous l'admettre, c'est quand même vrai. Et justement, je reviens avec mon image du sport, on n'a pas besoin d'être un grand sportif, même moi, avec mon petit ventre, quand je fais du sport, je vois quand même que ça se joue pas mal dans le mental. C'est vrai. Si je pense en partant que je vais perdre le match, il y a bien des chances que je le perde. Donc ça se joue beaucoup là. Je suis tellement admiratif lorsque je lis des témoignages comme celui de Rostam Nabiev. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. C'est assez récent dans l'actualité. Cet ancien militaire russe a perdu ses deux jambes dans une explosion, dans un effondrement, dans un accident en 2015. Et puis, voilà que le 2 octobre dernier, 29 ans, il a réussi à gravir l'Himalaya sur les mains. 8163 mètres, l'Himalaya. Il a gravi ça comme ça. Je ne sais pas si on arrive un petit peu à imaginer. Impressionnant. Impressionnant. Je suis admiratif. Il dira, c'est le chemin le plus compliqué, le plus difficile qui m'est donné d'emprunter. Je souhaite que mon ascension devienne un symbole pour des millions de gens. Il ne faut jamais abandonner. C'est complètement fou, hein ? Comment a-t-il pu oser même essayer ? Franchement, il aurait quand même dû savoir que c'était impossible. On ne monte pas sans jambes à l'Himalaya. C'est pas possible. Déjà, avec des jambes, on hésite. Mais alors, sans jambes, franchement. Pourtant, il l'a fait. Pourtant, il y est allé. Alors, peut-être qu'il a réussi avec la force de la pensée positive. Peut-être qu'il avait sa motivation la plus profonde, c'était justement de montrer au monde que ce sentiment d'impuissance ou ce sentiment d'impossibilité peut être renversé. C'est peut-être ça qui a été sa force. Moi, ça me fait réfléchir, je suis admiratif. Mais pour nous, chrétiens, je suis persuadé que pour vaincre ce sentiment d'impuissance, nous avons besoin que nos pensées soient renouvelées par le Saint-Esprit afin que nous puissions croire qu'avec Christ, tout est possible. La clé, elle est là. On a besoin de croire qu'avec Christ, tout est possible. On a besoin d'une foi renouvelée, d'une pensée renouvelée. On a besoin de croire que les promesses de Dieu sont vraies. On a besoin de saisir la victoire complète de Christ. Nous ne pourrons prendre possession de notre terre promise, nous ne pourrons pas prendre possession de notre terre promise sans croire à la toute-puissance de Dieu. Et puis l'enjeu, encore une fois, c'est la liberté. L'enjeu, c'est de plus avoir de menottes, plus d'avoir de chaînes. L'enjeu, c'est la liberté. Christ nous a libérés. Et nous continuons parfois à vivre comme si nous étions attachés à notre poteau de l'impossibilité. Le pasteur et auteur américain Neil Anderson a dit ceci. Nous avons accès à une puissance qui dépasse celle de la capacité humaine. Le pouvoir de croire en la vérité. Si nous connaissons la vérité telle qu'elle nous est révélée dans la parole de Dieu, et si nous décidons d'y croire, nous serons libres de toute limitation artificielle. Je laisse juste quelques instants. Ça paraît bête, peut-être. Ça paraît être un peu simpliste. J'accepte. Pourtant, est-ce que je crois à la vérité totalement, à cette vérité révélée dans la parole de Dieu ? Nous devons passer d'un passé sans Christ à une nouvelle réalité avec Christ en nous. Nous devons passer d'un passé sans Christ à une nouvelle réalité avec Christ en nous. Ça change. Encore un texte biblique ce matin, Romains 5, il nous dit, Paul nous dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Pour arriver à l'espérance, pour arriver à cette foi qui espère ce qu'elle ne voit pas encore, pour croire que c'est possible, il semble que nous devons passer par la persévérance qui conduit à la victoire. C'est la victoire qui nous permet d'espérer. C'est dans la persévérance, pourtant, que nous découvrons qui est Christ, qui est Dieu. C'est alors que nous persévérons, que nous essayons, que nous avançons avec lui, que nous allons voir qu'il est le Tout-Puissant. Et si on s'arrête au verset 4, on a l'impression que tout repose sur nous. Il faut endurer avec endurance. Il faut endurer avec endurance. Mais le verset 6 nous rappelle quelque chose d'essentiel. Alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Vous sentez-vous parfois sans force, impuissant? Il est mort pour toi. Il a vaincu la mort. En résumé, remporter des victoires commence par remporter une victoire, celle sur le sentiment d'impuissance. Donc pour cela, on a parlé d'être renouvelé dans notre intelligence afin de croire que rien est impossible à Christ et que ce qu'il dit est vrai, qu'il accomplit ses promesses. Et j'aimerais terminer avec quelques vérités que je vous encourage à prendre avec vous. D'accord ? C'est takeaway. Okay ? Vous allez les prendre avec vous. Si vous les aimeriez par la suite, vous pouvez me demander le PowerPoint, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Victory over the Darkness ». Alors, on va les lire ensemble, d'accord ? Là aussi, peut-être, vous allez dire, c'est un peu simpliste. Et pourtant, pourquoi dire que je ne peux pas quand la Bible dit que je peux tout par celui qui me fortifie ? Pourquoi m'inquiéter par rapport à mes besoins lorsque je sais que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ? Pourquoi avoir peur quand la Bible dit que l'esprit que Dieu m'a donné ne me rend pas timide, mais me remplit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi manquer de foi ? Pour vivre en Christ quand Dieu m'a accordé une mesure de foi. Pourquoi me montrer faible quand la Bible dit que le Seigneur est le soutien de ma vie et que la connaissance de Dieu me permet d'agir avec fermeté, hein, donc faiblesse dans le sens de pas ferme, d'accord ? Vulnérable, nous le sommes. Pourquoi permettre à Satan de contrôler ma vie quand celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ? Amen. Pourquoi accepter la défaite quand la Bible dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ ? Pourquoi manquer de sagesse quand je sais que Christ a été fait sagesse pour moi par la volonté de Dieu et que Dieu me donne la sagesse en abondance si je la lui demande ? Pourquoi céder au découragement quand je peux repasser dans mon cœur les bontés, les compassions et la fidélité de l'Éternel, ce qui me donne l'espérance ? Pourquoi m'inquiéter et me tracasser quand je peux me décharger sur lui de tous mes soucis, car lui-même prend soin de moi ? Pourquoi rester dans l'esclavage quand je sais que l'Esprit du Seigneur est source de liberté ? Pourquoi me sentir coupable quand la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ? Pourquoi me sentir seul quand Jésus affirme qu'il est avec moi tous les jours et qu'il ne me délaissera pas et ne m'abandonnera pas ? Pourquoi supposer que je suis sous la malédiction ou que je n'ai pas de chance quand la Bible dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi afin que je reçoive son esprit par la foi ? Pourquoi éprouver du mécontentement quand je peux, comme Paul, apprendre à me satisfaire de l'état où je me trouve ? Pourquoi me sentir sans valeur quand Christ est devenu péché pour moi afin que je devienne en lui justice de Dieu ? Pourquoi me sentir sans défense devant les autres quand je sais que si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi ? Pourquoi céder aux troubles quand Dieu est l'auteur de la paix et qu'il me donne la connaissance par son esprit qui habite en moi ? Les deux dernières, pourquoi me sentir comme un raté quand j'ai la victoire par celui qui m'a aimé ? Pourquoi laisser les pressions de la vie me tracasser quand je peux prendre courage en sachant que Jésus a vaincu le monde et ses problèmes ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, la réponse est à cause de ce sentiment d'impuissance, cette déformation de la vérité qui s'est si bien installée en nous. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à faire une prière avec moi pour saisir la victoire sur ce sentiment d'impuissance qui nous laisse en échec si souvent, qui nous empêche de saisir les vérités et les promesses de Dieu pour nos vies. Vous êtes d'accord ? Ceux qui le souhaitent, qui veulent comme dire oui, ce matin je veux saisir cette victoire, j'aimerais vous inviter simplement à vous lever et puis on va prier ensemble. On va prier ensemble. Je ne vais pas vous demander de répéter après moi parce que je n'ai pas envie que ce soit un truc machinal ou que ce soit ma prière à moi. J'aimerais juste vous inviter dans le secret de votre cœur maintenant à répondre, à saisir cette victoire, à peut-être réaliser là où effectivement vous avez déjà décidé que ce n'était plus possible. Vous avez arrêté de vous battre, vous avez laissé tomber, vous avez cru à ce mensonge pour vous laisser maintenant revêtir de Christ qui a la victoire. Alléluia.